Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Dans sa rubrique Mots pour mots, Jean Pruvot traite l'étymologie et l'histoire de prénom, nom, surnom et le protocole collé.
Nom, prénom, surnom. Tous les prénoms ont une histoire passionnante, pour peu qu'on s'y penche. Et si leur étymologie était connue de tous, l'on imagine aisément qu'ils pourraient être choisis en fonction des différentes préoccupations d'une époque. Par exemple, pour la nôtre, très soucieuse d'écologie, certains prénoms seraient bienvenus, tels que Sylvie ou Sylvain, qui viennent tout droit du latin Silva, la forêt, ou plus poétiquement encore la Sylve. Et puis, en fouillant un peu dans l'histoire, on pourrait par ailleurs ressentir une certaine sympathie pour Sainte Sylvie, qui, si on ose dire, était bio avant l'heure. Elle était en effet la mère de Saint Grégoire le Grand, un pape du VIe siècle, et comme ce dernier était de santé fragile, sa très gentille maman lui faisait porter chaque jour des petits légumes de son jardin. Voilà pourquoi Sylvie est un prénom qui sent bon la forêt, mais aussi le jardin, l'écologie avant l'heure. Pour qu'on comprenne bien la différence entre des mots comme prénom, nom, surnom, nom de famille, second nom, nom, comme la chose se corse avec le jeu des surnoms et peut devenir insultante, j'ai choisi mon propre nom et prénom, pour ne vexer personne. Commençons par le prénom, Jean. Donc ça vient de l'hébreu, Yohanan, et signifie « Dieu accorde », rien de fantaisiste. Et pour agrémenter ce prénom, qui autrefois aurait été en réalité mon seul nom, mon nom tout court, ou mon nom de baptême, vient un autre mot qui me détermine, Pruvot. Aujourd'hui, nom de famille, ou nom patronymique, du grec onyme, nom, et patro, père, nom du père, donc. Jadis, ce n'eût été que mon surnom, mon second nom. Pruvot, je ne l'ai évidemment pas choisi, pas plus que mes parents ne l'ont choisi. Il s'agit pourtant au départ d'un surnom donné au premier qui porta ce nom, qui devint, après lui, héréditaire. Le mot Pruvot vient en l'occurrence du latin prae positus, le romain qui était à la tête d'un corps d'armée, prae devant et positus posé, donc posé devant un prae positus qui colonisait allègrement la Gaule. Puis, sous Charlemagne, le prae positus, qui par érosion a fini par se prononcer Prévost, Pruvot ou Provost, fut celui à qui on confiait une charge à la tête d'un domaine. Et il deviendra ainsi aussi une sorte de collecteur d'impôts pour les puissants. Rien d'enchanteur. En arrivant alors au XIIe siècle, c'est un nouveau tournant pour l'histoire des noms de personnes. En effet, pour le moment, s'il y a bien des gens qui font le métier de prévôt, de meunier, de boulanger, ils n'ont toujours qu'un nom, le nom de baptême qu'on leur a donné, tout petit. René, Charles, Dominique, Claude, Jean. Et on ne dit ni Jean Meunier, ni Jean Prévôt ou Pruvot. Personne n'a encore de nom de famille, et ça ne posait aucun problème tant qu'il y avait seulement qu'un ou deux gens dans le village. Mais au XIIIe siècle, la population augmentant considérablement, il n'y a plus seulement un ou deux gens dans le village, mais 6, 8, 10, etc. Alors, comment savoir lequel est concerné quand on parle de Jean? On n'a pas le choix. Il va falloir utiliser des surnoms, et on va distinguer Jean Dupont de Jean Dubois, de Jean Le Roux, ou de Jean Le Brun, ou de Jean Le Grand, qui peut d'ailleurs être très petit, si on l'a appelé comme ça par dérision. Et puis un Jean Prévôt, ou Pruvot, si on est dans le Pas-de-Calais surtout. Mais c'est là où tout est trompeur, on comprend bien que Jean le pape ne descend pas d'un pape, mais de quelqu'un qu'on a, en plaisantant, assimilé à un pape. Or pour Prévôt, Pruvot, s'il est certes possible de descendre d'un prévôt, il y a bien trop de Prévôt, Pruvot, pour que ce ne soit pas aussi un sobriquet adressé à quelqu'un qu'on appelait prévôt, parce qu'il était soit autoritaire, soit responsable de quelque chose, ce qui est bien, ou encore, et là c'est moins bien, peut-être parce que c'était un crétin, qu'on surnommait alors prévôt par dérision. Je suis donc peut-être descendant d'un parfait crétin. C'est à partir du XIIIe siècle que les surnoms sont devenus héréditaires et qu'ils sont donc devenus ce que l'on appelle des noms de famille. On comprend mieux maintenant la définition d'un dictionnaire de 1690. Nom se dit aussi d'un second nom qu'on trouve dans la famille et qui se continue de père en fils. On l'appelle aussi un surnom. D'ailleurs, en anglais, c'est surname. Aujourd'hui, bien sûr, le surnom s'ajoute à l'ex-surnom devenu nom de famille. Par exemple, Jean, prénom, Pruvot, nom de famille, surnom, le dicopathe, pourquoi pas. Les mots nom et prénom viennent d'ailleurs du latin où les Romains distinguaient le praenomen, prénom, le nomen, le nom, et le cognomen, le surnom. Alors pour conclure, trois points de vue. Le premier, celui de Corneille en 1650. « Ce part qui voudra du nom de ses aïeux, moi je ne veux porter que moi-même en tout lieu. » Porter un nom, c'est beau, certes, mais il va de soi qu'on existe aussi seul sans le nom de son aïeul. Plus près de nous, en 2006, le second point de vue est celui de Muriel Barbery dans « L'élégance du hérisson » avec René, l'héroïne, tout émue dans son enfance parce que, pour la première fois, quelqu'un s'adressait à moi en disant mon prénom, déclare-t-elle. C'est ainsi que commencent les belles histoires d'amour. Et dans ce cadre, un troisième témoignage, celui de Victor Hugo, évoquant son premier amour, extrait de sa correspondance. « Les noms et prénoms de ma bien-aimée fiancée sont Adèle Julie Fouché, fille mineure de Pierre Fouché et d'Anne Victoire Asseline. Le tout écrit avec solennité et grande émotion, comme ses prénoms gravés sur les arbres. Au reste, pour revenir à notre prénom écologique, Sylvie ou Sylvain, le graver sur un arbre, Sylva désignant la forêt, voilà qui en définitive revient presque à l'étiqueter. Le protocole collé. Que le mot protocole rime avec col n'étonnera pas l'étymologiste qui se souvient du rapport de sens entre les deux mots, tout en rappelant qu'au Moyen-Âge, le protocole s'orthographiait avec deux L. Le mot est en effet issu du latin médiéval protocolum, C-O-2-L-U-M, fort de ces deux L, qu'il gardera au moment de passer en français au milieu du XIVe siècle. De fait, la colle constituait l'un des éléments premiers de ce mot savant, et en l'occurrence, il suffit de signaler que, dans le code justinien du VIe siècle, le protocole désignait bel et bien chaque feuille collée en tête des différentes chartes pour les authentifier. Le mot « protocole » signifie en effet au sens littéral ce qui est « collé » devant, du grec « colla », « colle » et « proto » en premier. En réalité, de l'étiquette au contenu, il n'y avait qu'un petit pas à franchir. Et le protocole s'assimila donc d'abord au Moyen-Âge, à la minute de contrat, c'est-à-dire à l'original d'un acte juridique. On l'appelait d'ailleurs minute parce que le dit contrat était écrit dans une toute petite écriture très fine, minute ayant pour origine le latin minus, moins, plus petit. Le protocole désigna ensuite le registre lui-même contenant ces minutes. Enfin, au début du grand siècle, le protocole devint le recueil des formules en usage qui réglaient la correspondance entre des personnes de rang distinct, d'où les protocoles de sergent, les protocoles de notaire, évoqués dans nos tout premiers dictionnaires monolingues à la fin du siècle de Louis XIV. En 1655, dans le trésor de recherche et antiquité gauloise et françoise, Borel signalait encore plaisamment que le protocole représentait la marque du papier qu'on mettait au bord, à cause de quoi il était défendu aux notaires de rogner leur registre afin qu'on puisse découvrir les faussetés, ce qui ne se pourroint si la marque était emportée. Ce n'est en fait qu'au cours de la première moitié du XIXe siècle que le protocole devint aussi synonyme de registre, propre à recueillir les résolutions d'une assemblée ou plus spécifiquement d'une conférence internationale, d'où la notion installée dans l'usage de protocole international. Le plus connu de ces protocoles restant évidemment celui de Genève. On peut ainsi évoquer la première convention de Genève, passée en 1864 pour protéger les soldats blessés, ou encore celle de 1929 portant sur le traitement des prisonniers de guerre. Dans le même temps, se développait au reste un autre sens du mot lié au même respect des règles, le protocole ayant alors pour objectif de codifier les relations officielles, diplomatiques, et donc de coller à ce qu'on appelle aussi l'étiquette, cette dernière faisant référence à la coutume qui consistait à utiliser des étiquettes, souvent collées, pour désigner l'ordre des préséances. C'est de la Grande-Bretagne, qui emprunta aussi le mot protocole, que vinrent ensuite par extension de nouveaux sens, d'un côté vers 1920, la liste des conventions typographiques mises en œuvre dans l'élaboration d'un texte imprimé, et de l'autre, le protocole, pouvant désigner le compte-rendu de la passation d'un test psychologique. C'est dans cette double acception que naissait aussi le protocole opératoire, vers 1950, en l'occurrence le compte-rendu écrit d'une opération, et par conséquent le déroulement exhaustif des gestes que le chirurgien doit exécuter dans une opération donnée. Cette nouvelle signification du mot « protocole » s'étendit rapidement à toute thérapeutique complexe. Et c'est ainsi que l'usage s'en répandant à partir des années 1970 était ajouté cette nouvelle acception dans le millésime 1997 du Petit Larousse illustré au sein de l'article consacré au protocole. Ensemble des règles à respecter et des gestes à effectuer au cours de certains traitements et lors des essais thérapeutiques. Cette définition était significativement modifiée dans le millésime suivant, traitement, bénéficiant en effet d'une parenthèse, traitement anticancéreux par exemple. Parenthèse révélatrice de l'emploi institutionnalisé du mot dans la lutte contre le cancer. À la manière du plan de vol d'un avion, le protocole médical a quelque chose de rassurant, d'autant plus qu'il est modifiable en cours de route. Il sert aussi de trait d'union entre tous les partenaires réunis auprès du malade, dans la mesure où il est diffusé à l'ensemble du personnel médical, paramédical, du service, au directeur d'établissement, au directeur du service de soins infirmiers, aux pharmaciens hospitaliers, à tout nouveau personnel toujours accessible, voire affiché, collé en tout premier, dirait l'étymologiste, si l'organisation du service s'y prête. Le protocole, que Furtière écrit encore en 1690 avec deux L, dans son dictionnaire universel, a jadis bénéficié aussi d'un autre sens. Il se disait en effet, autrefois, dit Furtière, de celui qu'on appelle maintenant souffleur, qui est derrière celui qui parle en public, pour lui suggérer ce qu'il doit dire, en cas que la mémoire lui manque. Et ce type de protocole, en chair et en os, officiant, en étant armé d'une mémoire infaillible, était en vérité directement issu de ces personnages que les Romains appelaient les protocoles, c'est-à-dire, précise Furtière, certains nomenclateurs, par définition donc capables d'établir une nomenclature complète et fiable des noms. Dit Furtière, qui savait tous les noms des citoyens et qui les suggérait à leur maître, afin qu'ils puissent saluer chacun par son nom en l'abordant. C'est assurément un protocole bien utile que celui qui permet de ne jamais rien oublier, et qui permet de mettre en relation chacun avec précision. Voilà qui permet aussi de rejoindre Philippe Bouvard et son Petit Bouvard illustré, publié en 1985, dans lequel il définissait ainsi le mot protocole. Vade mecum des amours propres.